Elle s'appelle Elina. Elle a 17 ans. Elle habite à Vincent-d'Eau, au sud de La Réunion. Elle va vous raconter l'histoire d'un livre. Pas n'importe quel livre. Celui de Natacha Apana. On l'avait reçu comme tous les autres livres en lice pour le prix Goncourt des lycéens. On devait lire, débattre, voter. Elle a ouvert le sien un soir, assez tard, en se disant qu'elle lirait juste quelques pages. Elle l'a refermé au petit matin. Ce livre parlait du Nil, d'un océan indien, de ce qu'on porte quand on vient de là-bas. Cette façon d'être au monde qui n'a pas de nom exact, mais qu'on reconnaît tout de suite quand quelqu'un d'autre l'a mis en mots. En le lisant, elle avait l'impression étrange qu'il avait écrit quelque chose qui lui appartenait aussi. Quelque chose qui dormait en elle, sans qu'elle sache comment le dire. Le jour du vote, en classe, elle a levé la main. Et puis, elle a regardé autour d'elle.
Ce n'était pas une discussion, c'était une évidence.
Moi, j'ai levé la main tellement vite que j'ai failli me faire mal.
Son livre, il nous ressemblait. Une histoire d'île, d'océan indien. On ne pouvait pas voter autrement.
Toutes les mains étaient levées. L'unanimité. Et c'est cet élan-là qui l'a porté jusqu'à Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que leur classe était invitée pour la première fois. Pas juste leur lycée, toute la région d'outre-mer. Ils étaient les premiers élèves de Lille, des dom-toms, à participer au concours des lycéens. C'est Madame Cazé, leur accompagnatrice, qui avait rendu ça possible. Elle avait dit oui avant tout le monde. Et là, dans l'avion, pour ce premier voyage, elles n'étaient que toutes les deux. La classe était restée à Vincent-d'Eau. 20 paires d'yeux qui regardaient Paris à travers elle. Avant de partir, ils lui avaient tous dit la même chose.
Elina, tu nous ramènes un livre, signé, de sa main à elle. Tu m'entends? On compte sur toi.
Un livre, signé, de sa main. Elle portait cette promesse dans la poitrine. Dans l'avion, Madame Cazé regardait par le hublot. Elle a fini par se tourner vers elle.
Tu réalises ce qu'on est en train de faire?
Non, pas encore. Les délibérations à la FNAC, le 24 novembre. Elles sont arrivées en retard, légèrement, parce qu'elles s'étaient trompées d'entrée.
On ne dit rien à la classe.
À l'intérieur, des élèves de partout. Paris, des lycées français à l'étranger. Elle, seule représentante de son île dans cette salle. Elle s'entendait mieux avec les étrangers qu'avec les Parisiens. Ce qui, soyons honnêtes, est tout à fait compréhensible. Et puis, le 27 novembre, l'Élysée. Elle ne va pas faire semblant que ça ne lui a rien fait. Les couloirs, les plafonds, l'or partout, sur les cadres, sur les moulures, sur les poignées de porte, les ors de la République. Madame Cazé marchait à côté d'elle. Elles étaient silencieuses. Elles venaient d'un lycée qui regarde l'océan. Du jus de pamplemousse, une quiche aux poireaux, et elles deux, au milieu de tout ça. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là. Et au centre de tout ça, Natacha Apana. Entourée, sollicitée, photographiée. Impossible d'approcher. Elle la regardait de loin, en se disant qu'elle avait fait 10 000 kilomètres pour être dans la même pièce qu'elle et qu'elle allait peut-être rentrer sans lui avoir dit un seul mot. C'est là que Macron est arrivé. Il trottinait dans les couloirs depuis un moment. On l'entendait appeler l'auteur dans les salles adjacentes.
« Natacha, attendez-moi, j'ai des choses importantes à vous dire sur votre roman. Natacha !»
Natacha Apana ne l'entendait pas ou faisait semblant. Personne ne saura jamais. Les établissements se préparaient pour la photo avec le président, sa femme et l'autrice. Et là, catastrophe. Il les avait oubliées. Elles n'étaient ni dans les Parisiens, ni dans les étrangers. Elles étaient les réunionnaises, la troisième catégorie. Elle attrape son badge, elle s'apprête à le brandir. Et à ce moment précis, Macron trébuche sur une descente de vélo rouge.
« Je vais bien, c'est pour la France. »
Avec Madame Cazé, elle court l'aider à se relever. Il est lourd.
Le poids des responsabilités.
Et là, en se relevant, il les remercie et leur demande d'où elles viennent.
La Réunion, vous connaissez ?
Quelque chose, aussitôt, s'allume dans son regard.
For sure. La Coco, Saint-Gilles, The Volcan La Fournaise, Saint-André, Jean-Claude Virapoulet, le Massalé Cabri, André Tianakoun, The Future of Zandette, Didier Robert, The Clary Tongue, Natacha, une petite réunionnaise, venez voir.
Aïe, cousine. Elle l'a prise dans ses bras, comme si elle se connaissait depuis toujours. Quelques instants plus tard, elle discutait de l'authenticité du rougail saucisse mauricien dans un couloir de l'Élysée. Elle ne sait toujours pas comment c'est possible, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et au milieu de cet échange intellectuel de première importance, une voix est arrivée dans sa tête. Une voix.
Quand vous pensera plein les rougail saucisse, pense à nous un peu, s'il vous plaît.
Mais oui, la signature, le livre. Elle avait laissé le sien à la maison. Elle s'était dit que sur place, elle en rachèterait un, tout neuf. Pas comme le sien tout écorné à force d'être manipulé. Problème, il n'y en avait plus, nulle part, dans toute la France. Épuisée, distribuée, partie, victime de son succès. Dans sa tête, 13 voix en pleurs résonnaient.
J'ai le mien.
Le vôtre ?
Celui que j'ai lu, annoté, tenu dans mes mains. Je vous le donne. Pas, je vous le prête. Je vous le donne. Mais j'ai une condition. Je veux que toute votre classe le signe. Chaque élève, vos noms à vous, sur mon livre à moi. Et je veux que vous me le rapportiez au prochain voyage. Celui avec toute la classe. Cette fois-là, vous venez tous. Et vous me le rendez couvert de vos signatures, de vos prénoms réunionnais. Comme ça, le livre sera à nous deux, à votre classe et à nos îles sœurs.
Mais, Apana, je l'avais promis à Brigitte.
Oui, oui, le vôtre, je lui ai promis. Oui, je comprends, c'est important pour sa classe, mais vous comprenez, pour Brigitte aussi. Chaque soir, elle me fait la lecture pour m'endormir. Et, allez, Elina, je vous l'échange contre un supplément de tarte aux poireaux. Un chandelier de cette salle, n'importe lequel, le Clémenceau. S'il te plaît, please, c'est pour Bri-Bri.
Et c'est là que derrière lui est apparue, tout en grâce et en délicatesse, Brigitte, elle-même qui, sans même le regarder, dit en lui tendant le livre, « Vous embrasserez vos copains de classe pour moi ?» Elle tenait fort serré le livre. Ses annotations, ses pages cornées, un livre donné avec une promesse cousue dedans, celle de revenir. Toute la classe, ensemble. Dans l'avion du retour, Madame Cazé dormait. Elle, non. Elle n'avait pas encore écrit à la classe. Elle voulait leur dire en face.
J'ai signé entre deux arguments sur les sources de Montesquieu.
J'ai signé entre deux restes de frites que je finissais pour rendre service.
Moi, j'ai pris tout mon temps. C'était son livre à elle. Je voulais que ma signature soit belle.
Le livre est signé. Précieux. Enveloppé avec soin. Chargé de leur nom, de leur paraphe maladroit, de leurs prénoms réunionnais alignés. Et comme pour la flamme olympique, il leur a fallu désigner un porteur, un gardien. Elle allait passer le relais et elle a choisi. Chloé ? Non, elle utiliserait le livre pour se ventiler. Noémie peut-être ? Non, elle l'oublierait dans son marathon. Emma ? Non, elle se perdrait avec le livre. Gibril ? Non, il écoute Juju, il l'aurait laissé chez lui pour du Rousseau. Maëlys peut-être ? Ah non, elle a déjà trop de choses à gérer et Tite à craquer. Éline ? Non, c'est déjà la maman. Naëlys ? Non, elle serait trop occupée à manger. Gaëlle ? Non, trop occupée à préparer son interview. Alicia ? Non, trop occupée à faire la fête. Geoffrey ? Geoffrey, il est ponctuel. Il est fiable. Geoffrey !
Ce deuxième voyage, on en parle déjà. Toute la classe, cette fois. Direction Rennes. Elle a hâte. Elle a tellement hâte de découvrir Rennes avec eux. Et qu'eux aussi rencontrent cette femme qui vient d'une île comme eux, qui leur a tendu son livre comme on tend la main à quelqu'un qu'on reconnaît. Mais ce deuxième voyage, c'est une autre histoire. Et elle sera plus compliquée. De un, parce qu'ils sont des citoyens de la troisième catégorie. De deux, parce qu'ils vont perdre Geoffrey.
Hein ? Ils sont réunis aujourd'hui pour dire adieu à Geoffrey. Geoffrey qui était ponctuel, Geoffrey qui était fiable, Geoffrey qui avait le livre. Il est parti un matin de décembre avant l'aube, comme un héros. La route du littoral l'a pris, les rochers l'ont gardé. Eux, ils ont continué. Il leur manque déjà, surtout le livre. Ils retiennent de lui sa rigueur, sa loyauté, et le fait qu'il n'aurait vraiment pas dû prendre la route du littoral un 8 décembre à 5h du matin avec le livre de Natasha Apana dans son sac. Repose en paix, Geoffrey. Tes amis, à tout jamais.
Mais vous faites quoi, là ?
On te rend hommage.
Mais je ne suis pas mort. J'étais coincé dans les embouteillages à cause de l'éboulis. Pas sous l'éboulis.
Chacun jugera. Mais de toute façon, ta mort n'était pas le problème le plus important.
C'est sympa.
Il faut vous expliquer quelque chose. Quand une classe est sélectionnée pour le prix Goncourt des lycéens, c'est simple. Tout est pris en charge. Hôtel, repas, transport, accès aux événements. Tout. La République prend soin de ses lycéens lecteurs. Sauf que la prise en charge, c'est sur le territoire national. Et pour leur territoire national, il est à 12 000 km.
12 000 km entre nous et la gratuité.
Et l'avion, c'est pas dans le forfait.
Voilà le problème. Pour une classe de métropole, pas de souci. On monte dans le TGV, on est dans le budget. Pour la première classe des Outre-mer de l'histoire du concours des lycéens, il fallait d'abord traverser l'océan. Et ça, personne n'avait prévu de le financer. Alors, M. Benoît Gonin et Mme Cazé se sont assis face à face, avec sous les yeux, un budget conséquent. Des trous budgétaires à combler et pas mal d'idées. Comment dire, farfelues.
On peut vendre du poulet grillé.
Oui. Et aussi, j'ai récupéré quelques cheveux de Macron pendant la visite à l'Élysée, quand il est tombé sur le velours rouge. Ça a volé. On peut les vendre en ligne. Reliques présidentielles.
On garde le poulet grillé en option sérieuse.
Elle ne sait pas si les cheveux de Macron ont été vendus. Ce qu'elle sait, c'est que leur projet, la directrice de la DACR, la direction des affaires culturelles de La Réunion, en a entendu parler et qu'elle a mis en place le quoi qu'il en coûte.
Non, ça c'est moi.
Elle a aidé à réunir le budget. Elle a cru que c'était possible. Alors, ils l'ont fait. Les billets ont été achetés, les valises préparées. La classe allait partir pour Rennes et avec elle, le livre tant chéri. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient.
On est le 8 décembre. Il est 9h du matin. Leur avion décolle dans 1h23 exactement. Ils sont juste devant la porte d'embarquement, tous pressés de s'envoyer en l'air pendant 12 heures. Surtout, Monsieur Bonagonin et Madame Cazé, elles voyagent en première grâce à la vente des cheveux macroniens, et lui en confort parce que le poulet grillé, ça rapporte moins.
Hey.
Mais surtout, ils attendent impatiemment Geoffrey qui a presque une heure de retard. Et voilà, presque autant de temps qu'ils essaient de l'appeler. Le silence de l'angoisse s'installe. Et au milieu de ce silence, ils écoutent Radio Freedom qui passe dans les enceintes de l'aéroport. Tout d'un coup, résonne une voix familière.
Allô Bobby, je suis à l'antenne. Merci.
On a un auditeur sur la ligne. Bonjour, vous êtes sur Radio Freedom.
Oui, bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey. J'appelle depuis le téléphone d'un pompier parce que le mien était posé sur le tableau de bord et...
Vous appelez depuis le téléphone d'un pompier ? Ils vont désincarcérer ?
Non, non. On a pu passer par les fenêtres. Oui, voilà. Donc, je voulais passer un message pour mes camarades de classe qui doivent m'attendre à l'aéroport Roland-Garros. En ce moment. Les amis du lycée de Vincent Dau, si vous m'entendez. Éline, Alicia, Elina, les autres. Voilà ce qui s'est passé.
On vous écoute, Geoffrey.
J'étais sur la route du littoral ce matin, 5 heures. Je roulais tranquillement, et là, un éboulis énorme, un caillou. Enfin, quand je dis un caillou, c'est une montagne qui est descendue. Ça engloutit tout l'avant de la voiture. Tout l'avant. Le capot, le moteur, tout disparu.
Mon Dieu, vous avez donc perdu les deux jambes ?
Non, rien du tout. Je suis miraculé. On est miraculé. Tout va bien, je suis sain et sauf. Les pompiers sont là, ils s'occupent de tout. Mais mon téléphone, lui, il n'a pas survécu. Il était sur le tableau de bord. Le choc. Voilà.
Le tableau de bord qui est donc couvert du sang de vos blessures ?
Non, je ne saigne pas. Mes camarades, si vous m'entendez, d'abord, je vais bien. Paniquez pas. Mais il y a une chose importante. Sur mes genoux, j'avais le livre.
La Bible ? Le Coran ? La Torah ? Un livre saint, sans doute, ce qui explique ce miracle.
Non, le livre de Natacha Apana. Celui qu'elle nous a donné de sa propre main à l'Élysée. Signé par toute la classe. Le livre qu'on doit lui ramener à Rennes. Quand le rocher a percuté la voiture, le souffle a tout emporté. Le livre a volé. Je l'ai vu passer par-dessus les rails de sécurité. Direction l'océan Indien.
Et c'est là où vous vous êtes noyé?
J'ai pas réfléchi. J'ai ouvert la portière, enfin la fenêtre. La portière était bloquée par les gravats. J'ai sauté. J'ai couru le long du rail. Le livre est resté pris dans un grillage, juste au bord, à 2 mètres au-dessus de l'eau. J'ai allongé le bras. Je l'ai eu.
Jeune homme, sans jambes, a sauté d'une voiture accidentée pour récupérer un livre au bord de l'océan Indien, dans lequel il s'est noyé, mesdames et messieurs.
Non. Oui, une seconde. Donc, mes camarades, partez. Prenez l'avion. Je vous rejoins par le prochain vol disponible. Monsieur Benagonin, Madame Cazé, je sais que vous m'entendez peut-être pas, mais si quelqu'un leur dit, partez rassurés. Je suis sain et sauf, et le livre aussi. On se retrouve à Rennes.
C'était donc Geoffrey, décédé en direct sous un éboulis de la route du littoral. Entouré de pompiers, le livre de Natacha Apana serré contre lui. Quelle mort terrible et en même temps magnifique. Nous pensons à sa famille, à ses camarades, et sachez, chers auditeurs, que demain, sur Freedom, nous lui rendrons un vibrant hommage en diffusant toute la journée des chansons de son chanteur préféré, Slimane.
Mais je ne suis pas mort, enfin.
Il est vivant. Le livre est vivant.
Monsieur Benagonin a fermé les yeux très fort pendant environ 5 secondes, puis il les a rouverts et a dit.
Voilà, tout va bien.
Décollant du tarmac de l'aéroport, l'avion longe la route du littoral. Ils aperçoivent distinctement l'éboulis. Un immense embouteillage est debout sur un rocher. Un jeune homme qui regarde vers eux, à la main, un livre qu'il balance au-dessus de sa tête en criant.
J'arrive ! J'arrive !
9 décembre, Paris-Orly. Il fait froid, très froid pour des Réunionnais.
Mais c'est quoi ce pays ? Moi j'adore le froid.
Alicia, tu claques des dents.
Je claque des dents de joie !
L'équipe de Ludir, la DAC Réunion, la FNAC les accueille. Bonnets, gants, photomaton à 5 dans la cabine en alternant toutes les 2 secondes pour être toutes sur la photo. Tartelette au caramel de chez Paul. Puis le TGV pour Rennes. Le chef de train leur annonce qu'ils ont choisi le TGV et pas le train. Et que Rennes est la plus belle ville du monde. Mais qu'il les laisse seuls juges.
On pensait qu'il était 15 heures. Il était même pas 10 heures. Le froid déforme le temps.
Arrivé à Rennes, auberge. Et à côté, une fête foraine. Ce fut une erreur.
Le flasheur, le manège, je crie. Si je meurs, tu meurs avec moi.
J'en suis ressortie traumatisée, à vie.
Moi j'ai gaspillé 5 euros dans un attrape-nigo. Aucun regret.
La nuit à l'auberge. Éline joue la maman, Alicia danse, Naïlis dort comme dans une suite présidentielle. Djibril a une chambre individuelle pour des raisons qu'il refuse d'expliquer.
Chambre de luxe, c'est tout ce que je dirais.
Il y a eu un tirage au sort. Djibril a gagné, c'était pas un tirage au sort. 10 décembre, quartier libre. Tour du monde en 4 minutes sur le prince des mers. Foire aux livres, hot dog. Naïlis finit les frites de tout le monde sans qu'on lui demande.
C'est un service que je rends.
Et partout, dans chaque conversation, entre deux bouchées, la même pensée qui revenait comme une marée.
Geoffrey, le livre. Geoffrey, le livre.
11 décembre, les vraies journées commencent. Le lycée Émile Zola, les rencontres avec les auteurs. Et là, quelque chose se passe qu'elle n'avait pas prévu. Les autres lycéens les regardent différemment. Pas comme on regarde des inconnus. Comme on regarde des gens qui viennent de très loin, au sens propre du terme. Il y avait des classes de métropole, des lycées de l'étranger, et eux, la Réunion, les premiers des Outre-mer. Et ça, ça crée quelque chose dans la salle. Une curiosité d'abord, puis une chaleur. Les autres lycéens viennent leur parler, leur poser des questions sur l'île, sur ce que c'est de lire là-bas, de vivre là-bas. Ils deviennent, sans l'avoir cherché, le groupe dont tout le monde veut s'approcher.
On avait l'impression d'être des ambassadeurs d'un pays qu'ils ne connaissaient pas vraiment.
Un lycéen de Paris m'a demandé si on avait des librairies à La Réunion. J'ai répondu oui, il avait l'air soulagé pour nous.
Dans les ateliers,
Djibril interroge Montesquieu sur ses sources comme s'il préparait une thèse de doctorat.
Alors, sur quelles archives avez-vous travaillé? Et dans quelle mesure le témoignage oral a-t-il influencé votre construction narrative?
L'auteur a pris une grande inspiration avant de répondre. Gaël a rencontré Deneuve Germain. Ce qui s'est passé dans cette salle, Gaël vous le racontera, parce qu'elle n'est pas là ce soir.
C'était intéressant.
Maëlys a rencontré Hélène Lorrain, qui lui a donné un cadeau, dont on ne peut toujours pas parler, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est.
C'est vraiment super.
On en saura plus dans 6 à 8 semaines.
Alicia, Hélène et Naëlys lisent à voix haute « Les passagères de nuit » de Yannick Lins. Et là, la réunion debout. Littéralement en l'air pendant le hip-hop. La classe brille. Les autres lycéens se lèvent avec eux. Ils ne s'y attendaient pas. Ce moment-là, il appartient à tout le monde dans cette salle. Pizza froide à midi. Et à la place des crêpes.
De la tarte aux pommes. Notre classe avait des crêpes. Nous, on a de la tarte aux pommes. À Rennes.
On est de la Réunion. On fait nos propres crêpes à la maison.
C'est pas le problème, Hélène.
Le séjour file. Trop vite. C'est toujours trop vite. Marché de Noël le soir. Churros avec Emma. Monsieur Benoît Gonin et Madame Cazé qui font le tour du marché avec la rigueur de prof en sortie scolaire.
I see you.
Et partout, toujours, en filigrane.
Je vous ferai le livre.
Toujours pas là. Toujours attendu. Ils avaient de ses nouvelles par message épars. Il avait un vol, puis un autre, une correspondance ratée, une histoire de bagages. Les boulis avaient tout décalé. Mais il y avait autre chose qu'ils ne savaient pas encore. Natacha Apana, ce jour-là, prenait la route pour rejoindre Rennes. Une route de campagne, quelque part entre Paris et la Bretagne. Et sur cette route, les boulis, effet papillon, la même île, le même livre, le même chaos de rochers qui bloque tout. Elle arrive à Rennes au moment où ils repartent. Leurs valises dans les soutes, leurs bonnets encore sur la tête, leur tête encore pleine de ces 3 jours. Ils se croisent sans vraiment se croiser. Elle arrive en taxi et ils repartent dans le bus qui les mène à l'aéroport. Le livre attendrait encore. Décolle de Paris. Quelqu'un regarde par le hublot.
Il y a un avion qui décolle, en face, venu de la Réunion.
Ils se sont tous penchés. Et dans ce petit hublot, en face, minuscule, une silhouette qui lève quelque chose. Un livre, le livre, et un sourire qu'on reconnaît même à cette altitude.
Geoffrey,
il a le livre.
Il a le livre.
Les deux avions se croisent, le livre entre deux appareils, entre deux îles, entre deux histoires qui s'entrelacent depuis novembre. Geoffrey arrive enfin. Mais pourquoi autant de retard?
Je fonce à Roland-Garros. Je suis en retard. Je suis essoufflé. J'ai du gravier plein les chaussures, mais j'ai le livre. Le livre est là. Tout va bien.
Grève des contrôleurs aériens. Aucun avion ne décolle.
Je m'assieds par terre dans le hall des départs avec mon sac sur les genoux et le livre contre ma poitrine. Et j'attends. 3 heures. 4 heures. Et puis, départ autorisé. Je me lève. Je cours. J'embarque. L'avion décolle. Je souffle.
Escale à Maurice.
Je savais pas pourquoi on s'arrêtait à Maurice. La compagnie a expliqué. Crise des carburants. Le kérosène coûte moins cher là-bas. On se pose sur l'île sœur. La sœur de ma sœur, si on veut. J'aurais presque rigolé si j'avais pas regardé l'heure. On repart. Cette fois, c'est bon. Cap sur Paris. 12 heures de vol. J'arrive demain matin. Je saute dans le TGV. Je suis à Rennes pour midi.
États-Unis attaquent l'Iran. Le plan de vol est modifié en urgence. L'espace aérien se referme comme un pont.
Le pilote annonce calmement, comme si c'était une information météo, qu'on va faire un léger détour. On descend vers l'Afrique de l'Est, Nairobi. Escale technique. 13 heures de retard. 13. Je compte pas les minutes parce que si je les compte, je me mets à pleurer. À Nairobi, je sors le livre de mon sac. Je le regarde. Couvert des signatures de toute ma classe, les prénoms réunionnais, serrés les uns contre les autres sur les pages blanches. Hélène, Elina, Alicia, Naëlys. Tout cela. Dans mes mains, à 10 000 km de leur île. Je le repose dans mon sac, très doucement, comme un être vivant. On repart de Nairobi, on remonte l'Afrique, on passe le Sahara dans la nuit, et finalement, Paris, Charles de Gaulle. J'ai plus de batterie, j'ai plus de monnaie, j'ai plus d'énergie, mais j'ai le livre.
je prends le métro. Je suis debout dans la rame, le sac entre les pieds, les yeux qui se ferment tout seuls. Châtelet. Un type. Rapide. Précis. Mon sac disparaît dans la foule avant que j'aie compris ce qu'il se passe. Le livre est dans Paris, sans moi. Je passe la nuit à courir les commissariats, les stations de métro, les objets trouvés. Rien. Le livre promené dans Paris comme un touriste. Il connaît peut-être mieux la ville que moi maintenant. Et le lendemain matin, épuisé, je longe la Seine parce que je ne sais plus quoi faire. Et là,
un bouquiniste. Boîte verte sur le parapet. Et dans cette boîte, posé entre un vieux Simenon et un guide de routard 1998, le livre.
Je demande le prix. Le bouquiniste me dit 3 euros. Je lui donne tout ce que j'ai dans les poches. Il me regarde comme si j'étais fou. Je m'en fiche. Je prends le premier TGV pour Rennes. 5 jours. Entre le départ de La Réunion et ce quai de gare, il s'est passé presque 5 jours. Je sais plus très bien quel jour on est. Je sais que j'ai faim. Je sais que le livre est dans mon sac. C'est suffisant. J'arrive à Rennes.
La salle est vide.
Pas en train de se vider. Vide. Les chaises rangées. Les lumières de fin de journée. Le silence propre des endroits qui viennent d'être habités et qui ne le sont plus. Toute la classe est repartie. Les autres lycéens aussi. Le prix Goncourt des lycéens 2025, c'est fini. Je reste debout dans l'encadrement de la porte avec mon sac et mon livre et mes 5 jours de périple et je regarde cette salle vide. Et puis, j'entends un bruit.
Au fond, une chaise, quelqu'un. Une femme, assise seule avec un café froid, qui lit.
Elle lève les yeux.
Natacha Apana.
On se regarde un moment sans rien dire, puis elle dit.
Vous aussi, vous avez raté le concours ?
Je lui explique. La grève, Maurice, le kérosène, l'Iran, Nairobi, le métro, le voleur, le bouquiniste des quais de Seine. Elle m'écoute sans m'interrompre, avec le calme de quelqu'un qui reconnaît dans les récits des autres la texture du réel. Quand j'ai fini, elle dit qu'elle aussi avait été bloquée. Un éboulis sur une route de Normandie. Elle avait raté toute la manifestation, alors elle s'était dit « autant attendre ici pour l'année prochaine ». L'année prochaine !
Elle sourit. On ne sait jamais.
Je sors le livre de mon sac. Je le pose sur la table devant elle. Elle l'ouvre. Elle prend le temps de lire chaque prénom, lentement, comme on lit un poème. Les prénoms réunionnais, serrés les uns contre les autres, les paraphes maladroits, les signatures belles et laides et vivantes. Elle signe. La dernière signature. La sienne. Sur son propre livre revenu de si loin. Et en dessous, elle écrit une phrase. Elle referme le livre, me laisse une seconde pour que je lise. Tout arrive à point à qui sait attendre. Elle me regarde.
La fontaine. Mais aujourd'hui, c'est Geoffrey.
Je referme le livre. Dehors, il fait nuit sereine. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, un avion ramène la classe vers l'île. Je pense à Elina qui regarde peut-être par le hublot. Je pense à Eline, à Naïlis, à Alicia qui claque des dents de joie dans le froid breton. Une aventure où rien n'était écrit, mais où tout, à la fin, était signé.